Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, donc la radio sans mettre ni publicité. Et alors, que de trois mots, c'est une nouvelle émission. Auparavant, nous présentions, du moins nous tentions de présenter la bibliothèque anarchiste régulièrement le mercredi matin à 8h. Le créneau a été impossible à tenir. Mais nous revenons donc à 19h30, deuxième et quatrième jeudi du mois. Alors, avec moi, donc moi c'est Michel, donc l'ancien de la bibliothèque anarchiste, et...
Salut, c'est le contre-amiral avec vous.
Alors, en réalité, il s'appelle Roland, mais un délire militariste fait qu'il tient à s'appeler le contre-amiral, je n'ai pas encore compris pourquoi. Et à la technique, nous avons José,
donc... l'amour de la marine.
Qui est assez gentil pour nous aider. Alors, le principe de cette nouvelle émission, donc Jeudi Noir, sera de vous présenter des livres ou des auteurs que nous aimons. Donc c'est un choix qui sera souvent assez subjectif et arbitraire. Nous espérons que les livres dont nous parlerons vous plairont aussi. Quoi qu'il en soit, qu'ils vous plaisent ou qu'ils ne vous plaisent pas, vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse suivante, c'est jeudinoir2012@gmail.com.
J'ai pas compris.
jeudinoir2012@gmail.com. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire si vous avez aimé ou pas. Donc, le morceau de musique que vous avez écouté juste avant que je ne prenne la parole, c'était un morceau d'Alice Doonut, un groupe de hardcore new-yorkais des années 80-90. C'est tiré de l'album The Untidy Suicides of Your Degenerate Children, donc le suicide désordonné de vos enfants dégénérés. Et voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Donc ce soir, nous allons vous parler de 2-3 livres, peut-être 4, mais j'en doute fortement, puisque nous n'avons qu'une heure. Et moi, j'aimerais commencer par vous parler d'un livre donc, qui a été publié assez récemment aux éditions Agone, écrit par Thierry Discipolo, qui s'intitule « La trahison des éditeurs ». Donc c'est dans la collection Contrefeu. Alors, donc il y a bon, Thierry Discipolo est lui-même éditeur, puisqu'il s'occupe de la maison Agone. Donc on peut se demander un petit peu ce que contient ce livre. Il faut constater déjà que bon, c'est une maison d'édition indépendante située à Marseille, qui publie des ouvrages plutôt d'ultra-gauche, tendance marxiste, parfois libertaire aussi.
Marxiste Bourdieu.
Marxiste, oui, Bourdieu, comme dit le contre-amiral, qui devrait se rapprocher du micro. Et donc, pourquoi ce livre? Parce qu'il me semble qu'il remplit un blanc, finalement, dans une partie des théories critiques qui ne s'occupent pas du tout des maisons d'édition. Sans doute parce que les livres, justement, dépendent de ces maisons d'édition. Et ce qui manque, c'est quoi? C'est finalement la position, le positionnement des maisons d'édition dans tout l'appareil, on pourrait dire, de propagande. Soyons radicaux, de propagande en faveur du monde actuel tel qu'il gouvernait. Et c'est-à-dire que les éditeurs se placent finalement toujours comme des défenseurs de la liberté d'expression, des droits humains, de tout un tas de choses qui sont très très bien, c'est-à-dire qu'ils essaient de se positionner à gauche, alors qu'en réalité, ce sont souvent quand même des marchands d'armes. Quoi d'autre encore, Roland? Bon, il y a Hachette, c'est des marchands d'armes, c'est
oui.
Matra, Lagardère.
Oui, oui.
Ensuite, Gallimard se présente souvent comme une petite maison d'édition indépendante qui lutte contre le grand méchant Hachette.
Ça fait un siècle qu'ils tiennent le concours. Hein.
Sachant que Gallimard a quand même quelque chose comme 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et qui possède un bon nombre de petites maisons d'édition. C'est-à-dire qu'ils ont un monopole assez énorme sur le marché de l'édition. Plus courant encore, enfin ou plus peut-être moins plus surprenant quand on connaît pas ce milieu-là, les éditions Actes Sud, qui s'opposent aussi comme des défenseurs de la liberté d'expression, du gauchisme, etc.
Oui, enfin ils ont quand même une certaine qualité littéraire, une ouverture au monde.
Alors ça, on pourra en discuter parce que justement c'est pas parce que finalement une maison d'édition. Et Thierry Discipolo l'explique assez bien dans son livre. Les maisons d'édition ont aussi besoin de publier de bons livres. Et finalement, on pourrait dire que la cible des contestataires, c'est aussi une cible de marché. C'est-à-dire que le contestataire, lui aussi, achète des livres.
Oui.
Et achetant des livres, il constitue finalement aussi
un segment du marché.
Un segment du marché. Mmh. Par conséquent, même Matra Hachette peut se permettre de publier des livres... qui seront par exemple qui s'intituleront Un bal capitalisme.
Contre la vente d'armes en Afrique.
Ou contre la vente d'armes en Afrique, oui. François Verschève a été publié par les Arènes, je crois,
oui.
Qui ont été reprises ensuite par un groupe plus ou moins capitaliste qui a continué de publier François Verschève. D'ailleurs, les Arènes étaient associées au Monde, qui était visé explicitement dans les livres de François-Xavier Verschève sur la France-Afrique.
Et voilà.
Par exemple. Donc, ici, l'analyse de Discipolo, pour ça, est intéressante. C'est-à-dire qu'il montre bien comment les choses sont imbriquées entre la nécessité, finalement, d'un positionnement commercial qui rapporte de l'argent aux actionnaires, qui va s'accoupler de façon un petit peu monstrueuse avec le besoin de vendre des livres à tous les segments de la population, et donc y compris des livres, des bons livres, de contestation sociale. Alors c'est l'exemple typique d'Actes Sud qui va publier Naomi Klein. Les livres de Naomi Klein, on peut les critiquer, mais ils sont relativement intéressants, que ce soit Nos Logos ou son livre sur les catastrophes. J'ai oublié
Théorie des catastrophes.
Théorie des catastrophes, sont bons livres.
Oui.
Ou non ?
Si, si, pourquoi pas, oui.
Pourquoi pas ?
Oui.
Bon. Je sais pas, c'est intéressant en tout cas à lire.
Oui.
Bon, après, on pense qu'on en veut. Mais.
Elle n'est pas encore venue s'expliquer sur Radio Libertaire, me semble-t-il.
Non, mais c'est une star maintenant.
Oui, oui, ben justement. Il faudrait qu'elle vienne.
C'est une star de la contestation.
Ouais.
Donc, en plus.
Qu'elle passe l'épreuve.
Est-ce qu'elle parle français ?
Oh, pfff.
Donc, si vous voulez, Discipolo dit tout simplement au début de son livre. Voilà. Il fallait gérer la politique aux États-Unis, ça a été plus ou moins inventé par Walter Lippmann, avec l'idée qu'il fallait rabâcher à toute occasion le conte de fées du capitalisme au point que les gens ne puissent plus que le répéter en toutes circonstances. Donc, le programme de Walter Lippmann se résume à quelques principes simples. La minorité intelligente des hommes responsables doit rester maîtresse du jeu en politique et les autres doivent être mis à leur place, leur rôle n'étant pas d'être des participants mais des spectateurs. Ils sont autorisés périodiquement à appuyer de leur poids tel ou tel homme responsable, c'est ce qu'on appelle une élection, mais ils doivent ensuite retourner leurs affaires privées. Bon, ça c'est une citation de Lippmann, d'accord ?
Je pense. Oui, oui, on la connaît un peu, oui, oui. Oui.
Et donc, le problème finalement que souligne Discipolo, c'est qu'il y a eu tout un tas d'analyses qui ont été faites sur la publicité, le marketing, l'industrie cinématographique, et ce qu'il ajoute, c'est que la grande absente des analyses de ces instruments de gestion de l'ordre social est sans doute l'édition. Et il continue, je vous le cite, « Pourtant, comme les autres médias, logés à la même enseigne, la plus grande partie de l'édition est depuis longtemps aux mains de grands groupes, souvent les mêmes, tyrannies privées qui œuvrent en partenariat officiel avec les États aux mêmes fins. Et une proportion non négligeable du contenu des livres, plus ou moins recomposé, souvent par leurs auteurs, sinon par les journalistes, nourrit l'irrépressible appétit des autres médias. » C'est-à-dire ici qu'il y a une espèce de cercle fermé entre le journalisme et le monde de l'édition. Les journalistes mettent en avant un thème quelconque, par exemple, mettons, l'insécurité, et immédiatement, l'édition embraye en publiant tout un tas de livres plus ou moins savants, des fameux Rofer et... comment s'appelle son compère
Ah, j'ai oublié.
T'as oublié,
ouais.
Bon, peu importe, de toute façon, ils sont pas très très importants, mais... enfin, si, malheureusement, ils ont du pouvoir, mais ils sont pas très très importants pour la pensée. Et donc, l'édition va immédiatement embrayer en publiant des livres plus ou moins savants sur l'insécurité, ce qui va nourrir aussi les médias dominants de la presse, et ainsi de suite. Donc, vous avez Lady Di, pareil. L'édition va bien marcher avec Lady Di. Et le problème, si vous voulez, enfin, c'est un des problèmes qui souligne, c'est que les éditeurs vont souvent se justifier les tonnes et les tonnes de bouquins pourris qu'ils publient par quelques bons livres qui leur permettent de maintenir une apparence de bonne tenue éditoriale. Et ils vont toujours jouer, finalement, les éditeurs vont toujours jouer sur cette double image. Et ils vont toujours essayer de se présenter soit comme des petits, soit comme des défenseurs de
la liberté d'expression,
de la bonne qualité, ouais, ouais. De la bonne qualité, comment dire, des livres, du caractère artisanal de leur métier, dans le même temps qu'ils rationalisent toutes les procédures de travail à l'intérieur même de la maison d'édition, qu'ils sous-payent leurs employés, qu'ils surpayent leurs cadres, et qu'ils font faire des livres, comment dire, le livre va être lié en Inde, corrigé au Maroc, tout ça évidemment à vil prix.
Et tu as quelque chose contre les autres civilisations ?
Non, pas du tout. Simplement, si on les paye pas assez pour faire des beaux livres, c'est dégueulasse.
Ouais.
Tout simplement, si on va chez eux pour uniquement faire baisser le prix du travail et ne pas améliorer leurs conditions de vie à eux, c'est absurde.
Ouais. Bon, moi je trouve que c'est un livre assez complet sur le paysage éditorial français actuel. En plus, l'auteur le connaît bien, puisque c'est des gens quand même qui croisent, à qui il a affaire pour une raison ou pour une autre. Tout ça, même si il est très en opposition avec une bonne partie d'entre eux. Donc il y a des informations assez riches. Après, moi j'ai toujours, par rapport à ce type d'ouvrage qui dénonce les formes de propagande telles qu'elles se diffusent, qu'elles soient explicites ou qu'elles soient plus ou moins masquées, disons les appareils de contrôle globalement. Il y a à la fois une vérité dans ce discours, et puis il y a malgré tout une insuffisance. C'est, il ne suffit pas que des autres, enfin que des maisons d'édition en l'occurrence aient, par exemple, des intentions manipulatrices dans les publications qu'elles ont, pour que ces intentions-là se réalisent par les actions qu'elles mènent. C'est-à-dire que, en face de ce livre, il faudrait aussi avoir quelle est la réception par le public. On peut l'avoir de manière subjective en discutant autour de nous, en trouvant que les gens sont cons, qu'ils n'ont pas lu les bons bouquins. Mais si on creuse un peu, finalement, d'une part, est-ce qu'on sait vraiment quelle est la lecture des gens, y compris ceux qui achètent le bouquin de Lady Di, est-ce qu'ils le lisent hein? Bon, alors en tout cas, ils alimentent la machine, ils donnent du pognon, donc effectivement, ça continue à tourner, mais on ne sait pas ce qu'ils en font. Et puis, deuxièmement, c'est... peut-être ce qui nous intéresse davantage là du point de vue disons du mouvement libertaire au sens large, c'est est-ce que les gens qui vont lire les productions dénoncées par Dissépoulos vont être influencés à l'instant T dans leur pratique sociale, dans leur choix, dans leur mode de vie, dans leur choix politique au sens le plus large. Bon, moi j'arrive toujours pas à savoir au bout de 30 ou 40 ans de vie sociale et de confrontation réelle, à quel point l'appareil de contrôle ou l'appareil de gestion des idées opère dans la tête des gens. Voilà.
Là-dessus, il y a des thèses de Chomsky qui sont reprises par Dissépoulos. Son idée, je crois, c'est que finalement, la majeure partie de ce type de propagande qu'on trouve soit dans les médias, soit dans les livres, est orientée à l'intention du public cultivé. C'est une idée que Chomsky développe. Son idée, c'est que finalement, ceux qui sont le plus touchés et le plus happé par cette propagande sont les gens cultivés.
Là-dessus, je le crois assez.
Et ça glisserait de façon sur l'indifférence des gens qui ne prennent pas forcément la peine de se pencher sur des bouquins. Ce dont on pourrait s'apercevoir avec certains comment dire résultats déplaisants pour nos élites autoproclamées, comme pour le référendum portant sur le traité européen.
Ah oui, en 2005. Oui.
En 2005, oui. Où, effectivement, malgré une machine de propagande absolument gigantesque, finalement, les gens ont voté non. Alors, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est pas nous d'en décider, mais en tout cas, il semble que la propagande massive l'aurait complètement... Alors, soit elle les a énervés, oui. Soit ils l'ont pas écouté.
Oui.
Mais dans un cas comme dans l'autre, ça n'a pas du tout fonctionné.
Oui. Alors, on a aussi une autre question par rapport au bouquin de Dissépoulos. Là, c'est la question de savoir, finalement, on peut faire le procès à toutes les maisons d'édition de se prostituer en grande partie dans leurs activités, dans leur production littéraire ou éditoriale au sens le plus large. Et puis, on peut aussi dire, d'une certaine manière, d'une autre manière plutôt, que est-ce qu'elles ont le choix ? Est-ce qu'elles ont le choix ? Est-ce qu'après tout, financer la maison avec une connerie sur les Didi, mais à côté, pouvoir publier des bouquins qui vont être achetés par 400 personnes, mais qui ne le seraient pas dans ce cas-là, c'est toujours pareil, c'est à moitié plein, à moitié vide. Si on doit chercher la réponse dans les intentions des éditeurs, on est un peu foutu, parce que les intentions, elles sont dans leur tête quand même. Donc, le seul choix qu'on ait, c'est de regarder par rapport aux résultats. Qu'est-ce que ça nous donne, nous, comme opportunité d'accéder à tel et tel bouquin ? Et est-ce qu'on a connaissance de livres qui ne sont pas publiés ou qui ne sont pas diffusés de par leur contenu ? Bon, y en a-t-il tant que ça ? Voilà. Il faudrait qu'on les ait quand même, et je suis pas sûr que... Enfin, en tout cas, pas dans ce livre-là, Thierry Dissépoulos n'en parle pas.
Non.
Il nous parle pas de tel ou tel domaine qui serait pas exposé. Même en devant gratter un peu pour le trouver parce qu'il ne sera pas en devanture dans la FNAC. Pour l'instant, voilà, moi j'ai un peu court là-dessus.
Ouais. En même temps, c'est vrai qu'il ne parle jamais de censure.
Oui.
Je pense que c'est plutôt son idée peut-être, je sais pas. Enfin, moi l'idée que j'aurais, c'est que c'est vrai que je pense pas qu'il y ait de censure et qu'il y ait de livres intéressants qui ne soient pas publiés. Enfin, peut-être qu'il y en a sans doute quelques-uns, mais globalement, je pense qu'on peut accéder à peu près tout ce qu'on veut et éventuellement même publier la plupart des choses que l'on souhaite. Maintenant, quand ils sont noyés au milieu de tout un tas de milieux d'autres bouquins, je pense que c'est plus difficile. Et puis d'autre part, autre chose, c'est que les éditions Agone et d'autres, comme la Fabrique et quelques autres maisons d'édition, essaient de répondre justement à ça en essayant de publier en tout cas que des bons bouquins et d'en vivre.
Oui.
Après, ils ont des pratiques, comment dire, de gestion totalement différentes. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de publicité parce que ça coûte cher et que finalement ça rapporte sans doute assez peu. Il y a tout un tas de choses qu'ils ne font pas. Ils ont une politique des salaires précise.
D'après ce qu'on nous dit, en pratique interne, en échelle des salaires, il n'y a pas d'actionnariat, etc. Bon, bien sûr.
Et ça ne les empêche pas d'écouler certains bouquins à 50 000, voire 200 000 exemplaires. Sans même parler d'un carton qui avait été fait il y a quelques années, d'un tout petit livre qui s'appelait Matin Brun.
Ah oui.
Qui était édité par une toute petite maison d'édition qui s'occupait essentiellement de poésie. Ils ont publié leur petit fascicule parce qu'ils étaient mécontents du fait de la situation politique globale. Publié Matin Brun, ça se vend, je sais plus, un truc invraisemblable, genre 1 million d'exemplaires. Ils ont été contactés par les supermarchés, qui leur ont demandé de faire une ristourne énorme. L'éditeur de Matin Brun les a envoyés chier. Et il leur faisait pas de ristourne parce que c'était la première fois qu'il lui achetait des bouquins. Donc lui ne faisait des ristournes qu'à ceux qui lui achetaient régulièrement des livres. Et c'est pas parce qu'on lui en commandait 40 000 qu'il allait faire une ristourne. Je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que, de fait, on peut aussi penser à un autre exemple, la Fabrique. Ils ont été aidés par les médias d'une autre façon. L'Insurrection qui vient, c'est très très bien vendu.
Ouais.
Mais eux, ils ont une couverture médiatique.
Ouais, voilà.
Mais comme dit Chepolo, cite cet exemple.
Ouais. Qu'est-ce qu'il en dit?
Il le cite comme exemple d'une réussite sans publicité. Je trouve que c'est un peu limite. Parce que.
Ils ont quand même un manager à l'Elysée, quoi.
Pour le coup, ils ont eu de la grosse publicité. Ouais. Involontaire sans doute, mais massive. Bah,
ils ont eu de la publicité, y compris aux États-Unis, sur les chaînes. Sur Fox News, ils ont été présentés comme la Bible de la révolution qui vient. Et attention, vous devez tous le lire. Donc, les milieux ultra-conservateurs américains se jetaient sur la publication traduite. Hein. Bon.
Est-ce qu'ils ont plus été lus par les conservateurs que par les apprentis révolutionnaires?
Allez savoir, c'est pareil. Hein. Ouais.
Donc, une pause musicale?
On rappelle qu'on est...
Oui, donc Jeudi Noir, une nouvelle émission sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Donc je sais pas quelle abominable musique José nous prépare actuellement. Donc nous allons voir. We'll be right back. Radio Libertaire, donc 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. C'est Jeudi Noir, donc une nouvelle émission. Le morceau que vous avez écouté, c'était un groupe portugais, Mau Morta. Un morceau, c'est un album de 1988, donc pop, punk, cold, à rallonge. Voilà, on espère que vous avez apprécié. Alors, le prétendu contre-amiral veut nous parler d'un livre qui me semble extrêmement suspect, d'Alexandre Dumas. La route de Varennes.
Qu'est-ce que
tu peux nous raconter là-dessus?
Et oui, moi je suis venu pas du tout avec un nouveau livre qui vient de sortir, mais un livre qui a 150 ans, hein, puisqu'il est sorti en 1858. Cela dit, si je le laisse, c'est qu'il a été réédité au Mille et une Nuits, hein, donc pour 4 euros, c'est pas cher. Voilà, et 200 pages, hein, donc c'est Alexandre Dumas quand même, il sait écrire. Et justement, par rapport à ce qu'on en connaît, le livre s'appelle La route de Varennes. Et le projet d'Alexandre Dumas en 1856, quand il se lance dedans, c'est de refaire le chemin qui a été fait par Louis XVI et sa famille au moment de la fuite, qui les a conduits jusqu'à se faire arrêter à Varennes. Et refaisant le chemin dans les mêmes conditions qu'à l'époque, c'est-à-dire en calèche, et s'arrêtant dans chaque village, dans les relais, etc., de chercher parmi les octogénaires qui sont dans les parages, ceux qui, jeunes gens à l'époque, qui avaient dans la quinzaine d'années à peu près, ont des souvenirs, ont vu passer, ont entendu dire, ont connu des témoins, etc. Bon, voilà le principe général du livre. Et du coup, il y a un certain nombre d'intérêts, à savoir, par exemple, le premier, c'est que d'abord, vous avez un livre d'Alexandre Dumas, qui est un livre à l'écriture débonnaire. Il prend son temps, alors que d'habitude, ça court un peu dans tous les sens, ça saute par la fenêtre. Là, il se met au rythme d'abord du voyage, et puis au rythme des conversations avec les personnes âgées, où il repose 10 fois la question pour être sûr de la réponse. Bon, il prend le temps de réfléchir. Bon, le deuxième intérêt, c'est que, étant publié dans les années 1850, donc sous le Second Empire, il s'agit pour lui, d'une certaine manière, de par son positionnement républicain, dans l'ensemble, même si on peut discuter ça et là, progressiste, de répondre à une historiographie à l'époque qui est dominante. Donc il cite un certain nombre d'auteurs de récits historiques des années de la Restauration et ensuite, qui sont des récits évidemment tout en faveur des monarchies et qui présentent à chaque fois le peuple comme étant toute une espèce de masse de brutes dangereuses. Bon, et Alexandre Dumas vient avec l'idée qu'il y a moyen certainement d'introduire un peu de nuance dans ce récit. Donc il fait des réponses assez souvent directes, assez souvent drôles, à des gens qu'on connaît, Adolphe Thiers, qui a publié une histoire de la Révolution française dans les années 1828, par là. Michelet, qui est la grande star de l'époque, évidemment. Hein. Mais Dumas le prend à son propre jeu, puisque Michelet prétend s'appuyer sur les sources, etc. Mais Michelet ne sortant jamais de Paris. Bon, et ben Alexandre Dumas lui rapporte des témoignages, rapporte des documents aussi, parce qu'il trouve un certain nombre de textes qu'il cite dans les différentes mairies où il s'arrête. Bon, chez le notaire, il trouve des plans des villes de l'époque qui contredisent les récits parce que telle rue et telle rue n'existaient pas ou n'existent plus, donc le chemin n'est plus possible. Bon, il prend donc Michelet un peu à son propre piège. Louis Blanc aussi, qu'on connaît pour 1848 et autour. Bon, tous ces gens-là qui ont écrit sur la Révolution, il rapporte un certain nombre de faits qui contredisent leur narration. Bon, mais des gens aussi encore moins recommandables, des furieux.
Thiers n'est absolument pas recommandable.
Non, bien sûr, mais il trouve encore pire. Il trouve des abbés qui expliquent que la Révolution c'est l'œuvre de Satan. Et donc tous ces gens-là à l'époque ont bonne presse, puisqu'on revient sur Dicé Poulot, c'est la littérature dominante de l'époque dans les milieux qui lisent, qui achètent des livres. Voilà. Et Dumas étant à ce moment-là extrêmement connu, célèbre et lu, eh bien son livre a un certain impact parce que il va être diffusé et va contredire tout ce qui traîne dans la bibliothèque sur ce sujet. Voilà. Donc il y a cet intérêt-là que ça nous restitue un paysage intellectuel qu'on a un peu oublié. Il faut quand même se souvenir que au moment de la Restauration dans les années 1815-1830. On enseignait dans les lycées, il n'y avait pas énormément d'établissements, mais dans les lycées, on enseignait la Révolution était effacée, elle n'existait pas. Et les batailles de Napoléon, c'est les batailles des rois. Napoléon n'existait pas non plus. Bon, il y avait du révisionnisme au sens propre. Voilà. Du négationnisme au sens propre. Voilà. Alors, après, un autre intérêt du livre, c'est que il est justement à un moment bascule, parce qu'il commence à dire que, 1856, donc, il commence à y avoir des lignes de chemin de fer qui se développent un peu partout, à partir de Paris. Hein, et que donc, ben, avec le chemin de fer, Dumas dit, avec le chemin de fer, on arrive, mais on ne voyage plus. Bon. Il fait ce constat-là, et lui, prenant le temps de s'arrêter village par village et discutant avec les gens, il nous restitue une vie rurale, un tissu rural et une densité rurale qu'on a du mal à soupçonner aujourd'hui quand on est toujours en voiture et qu'on se balade, et même quand on s'arrête dans les villages et qu'il n'y a plus grand monde. Hein. Mais à l'époque de Dumas, dans son livre, en permanence, il croise des gens. Il rencontre du monde, il discute tout le temps. Voilà. Les villages sont pleins, c'est des gros bourgs. Il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup d'enfants. Bon, ce sont des choses qu'on a oubliées, mais qui existent. Et ce sont des choses qui sont, à l'époque de Dumas, du même ordre qu'à l'époque de Varenne. Alors ça a une importance, parce que dans sa narration, il nous montre des choses que, quand on voit les événements de loin, on a du mal à imaginer. Hein. On imagine le roi qui part en carrosse, et puis qui file vers l'est pour trouver la frontière et retrouver ses amis, les rois prussiens et autres. Poursuivi par des gens qui partent de Paris à cheval. Bon, oui, mais non, c'est pas comme ça. C'est que, d'après ce que dit Dumas, à mesure que la diligence royale avance, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Partout, de jour comme de nuit, dans tous les villages alentours, ceux qui sont derrière, mais ceux qui sont devant, sonnent le tocsin avant même que Drouet, le fameux Drouet, le reconnaisse, l'identifie et le fasse arrêter. C'est-à-dire que le fait que cette diligence, bien grosse, parce que la reine n'a pas voulu prendre autre chose qu'une diligence, hein, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout commun dans ces rues à l'époque, bah, éveille les soupçons. Et donc on sonne le tocsin pour l'arrêter. Et donc finalement, le roi il est poursuivi tout le temps. Tout le temps. Il n'est pas simplement poursuivi par les Parisiens, par l'Assemblée. Et dans chaque village, Dumas restitue aussi une espèce de vie, de vérité de la Révolution à l'intérieur du peuple. Ce n'est pas que Paris, la Révolution. Et dans chacune des villages ou des bourgs qu'il traverse, que le roi traverse, et que Dumas traverse 60 ans après, eh bien, il trouve la mémoire de garde nationale constituée par les pères de famille, qui se réunissent régulièrement, qui discutent des nouvelles de Paris, qui votent des motions qui sont envoyées ensuite à l'Assemblée, hein, pour ou contre tel ou tel point de la Constitution ou tel événement avec l'étranger. Oui.
Et c'est raconté ça assez bien. Alors peut-être que c'est dépassé maintenant par l'historiographie, mais dans le livre de Kropotkine sur la Grande Révolution, où justement il s'attache à la Révolution française et il décrit, il écrit ça au début du XXe siècle, il pense combler lui un manque dans l'historiographie de son temps, qui est qu'on ne s'attache pas suffisamment à l'action du peuple dans la Révolution. Et il décrit, alors il parle de l'épisode de Varennes, mais Kropotkine décrit aussi justement toute cette activité révolutionnaire des campagnes. Et il essaie de la mettre en rapport avec les événements de Paris, les événements aussi législatifs, des choses comme la nuit du 4 août. Et finalement, la Révolution de 17 n'avait pas encore eu lieu quand il a écrit ce livre, mais il y a des événements qui sont quand même qui présentent des similitudes troublantes. C'est que finalement le monde paysan avait quasiment dans les faits déjà rejeté tous les privilèges féodaux, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé à refuser de payer les taxes que leur demandaient les seigneurs. Ils avaient aussi commencé à reprendre possession des communaux, c'est-à-dire des terres qui étaient normalement communes à tous, qui appartenaient à la communauté, et qu'à la suite de quelques lois iniques, les nobles avaient commencé à accaparer. Enfin, même plus que commencé, avaient bien accaparé au moment de la Révolution. Donc ça concorde assez bien avec ce que j'ai pu lire récemment dans le bouquin de Kropotkine là-dessus, sur cette vie finalement rurale, intense à tous les niveaux, parce que c'était aussi des gens qui politiquement étaient que se sentaient concernés.
Alors ce que dit Dumas, donc sur l'intensité de la vie rurale, le fait que finalement les nouvelles circulent très très vite, on peut imaginer l'absence évidemment de téléphone et ceci et cela, la vitesse du cheval, oui, mais il y a des chevaux finalement, où il y a des lignes de chevaux, il y a des circuits de village en village, il y a des gens qui connaissent des raccourcis, et donc il y a certains épisodes là entre Sainte-Menehoul et Varennes où on peut penser à un moment donné que la diligence du roi a pris une certaine avance, mais les gens du village, ben, eux, ils connaissent et ils coupent par la forêt, donc ils arrivent avant. Enfin, il y a un tissu social extrêmement fort, d'une part, et d'autre part, ces masses rurales qui se prennent en charge et qui s'investissent dans la révolution et qui se posent en acteurs politiques, ben, ce que montre Dumas, c'est que ce ne sont pas non plus des enragés, ce ne sont pas non plus des jacobins, des sans-culottes avant l'heure, ce ne sont pas non plus des assoiffés de sang. Ce sont des gens qui, à ce moment-là, à la fois arrêtent le roi, attendent parce que les lettres arrivent déjà de Paris annonçant que des députés arrivent en délégation pour le ramener à Paris. Bon, en même temps, eh ben, ils sont pleins de déférence pour lui, sont capables de crier « Vive le roi !» Voilà, mais sont en alerte tout le temps parce qu'il y a la trahison. Il y a la trahison et elle est représentée par les hussards qui traînent par-ci par-là. Il y a des compagnies de militaires qui se sont déployées depuis quelques jours avant la fuite à Varennes, en fait, pour servir de relais et pour récupérer le roi. Et ce simple déploiement a mis la puce à l'oreille à tout le monde. Et donc tout le monde attend qu'il se passe quelque chose. Et donc quand la diligence arrive, évidemment, le lien est fait. Hein. Et donc il y a une méfiance, parce qu'en plus, les troupes royales, les troupes de l'armée française à l'époque, elles sont en grande partie constituées avec, à l'époque, la guerre n'a pas commencé, hein, donc avec des mercenaires, et donc avec des professionnels qui sont prussiens ou d'autres pays, mais qui ne sont pas français. Qui ne comprennent pas forcément la langue, puis qui sont forcément pour celui qui les paye, évidemment. Hein. Et donc, ils ne sont pas très bien, ils ne sont pas du tout aimés du peuple. Voilà ce que montre Dumas. Hein. Voilà. Et quand le roi arrive à Varennes, il n'a plus qu'à passer, il y a une petite rivière, il n'a plus qu'à passer un petit pont, et de l'autre côté, à quelques centaines de mètres, l'attendent 300 ou 400 soldats avec Bouillet, le marquis de Bouillet. Mais lui, il est arrêté par 6000. 6000, d'après ce que dit Dumas, 6000 paysans avec des fourches, avec tout ce qu'il faut, et il ne peut pas passer. Voilà, ça se joue à très peu de choses.
Voilà. 6000 contre 400,
ah oui. Oui, oui, oui.
C'est pas mal.
Ah ben oui.
Ça fait peur.
Donc c'est vraiment c'est un livre qui est 4 euros, ça se trouve encore, je pense, qui est très facile, très agréable à trouver. Et Dumas prend un malin plaisir. Alors il y a autre chose aussi, c'est qu'il il répond à Victor Hugo. Mais il répond à Victor Hugo en frère, en fait, parce que il vient l'année précédente.
Victor Hugo est déjà en exil.
Oui, et l'année précédente, il a visité Victor Hugo en exil. Et le chemin qu'il prend, il se trouve que Victor Hugo, pour un de ses livres, l'a déjà pris en partie. Et donc, à un moment donné, Alexandre Dumas se présente dans une auberge, en sachant que Victor Hugo s'y trouvait avant, et une douzaine d'années avant. Et donc, il commence à discuter avec l'aubergiste, et l'aubergiste compare un petit peu la littérature de Hugo et de Dumas, parce qu'il lit, voilà, et puis tout d'un coup, il lui dit, c'est moi, Alexandre Dumas. Bon, voilà, des scènes très agréables, voilà. Un livre que je vous conseille tous.
Alors, je sais pas trop. Donc, on va écouter un autre morceau de musique. Et ensuite, on vous parlera d'un troisième livre. Je pense que ce sera le livre de Rudolf Rocker, Théorie et pratique de l'anarcho-syndicalisme. Voilà, donc vous écoutez Radio Liberté à 89.4. C'est Jeudi Noir, musique.
Crazy.
Eh bien, bonsoir, de retour sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître, ni publicité. Donc dans l'émission Jeudi Noir, qui démarre ce soir, donc avec Michel et le contre-amiral à la parole. Alors Michel, qu'est-ce qu'on vient d'écouter comme morceau là ?
Donc un de mes groupes préférés, No Means No, groupe canadien qui doit dater de la fin des années 70 dans sa formation. Ça c'était un morceau de leur premier album, Mama. Donc 82.
Et on va en écouter beaucoup des comme ça dans les prochains Jeudi Noir ou quoi ?
Je le crains.
Bien. Alors, qu'est-ce que tu veux nous présenter comme ouvrage maintenant ? Tu nous as parlé de rocker, vas-y.
Voilà, ben, je vais vous parler d'un autre rocker, mais celui cette fois-ci s'appelle Rudolf Rocker. Donc j'imagine que beaucoup, merci contre-amiral pour ce calembour minable, mais qui me fait rire quand même. Donc Rudolf Rocker, que beaucoup d'auditeurs connaissent j'imagine, qui s'intéressait au nationalisme, et qui a écrit, alors je suis tombé sur cet ouvrage récemment, je ne le connaissais pas avant, qui s'intitule « Théorie et pratique de l'anarcho-syndicalisme », qu'on peut trouver aux éditions Aden, donc il a 19 euros. Bon, une petite préface de Noam Chomsky, et puis c'est aussi présenté par Normand Baillargeon. Et donc j'ai trouvé en le lisant que c'était finalement un excellent ouvrage de présentation aux idées libertaires, mais pas seulement aux idées, parce que Rocker a la très très bonne idée de présenter, après avoir présenté donc les idées fondatrices de ce mouvement, les différents mouvements anarcho-syndicalistes en Europe et dans le monde. Donc c'est un ouvrage très pédagogique, écrit très clairement, qui se lit vraiment sans difficulté, et qui en même temps est très riche. Donc voilà, tout le monde ne peut pas écrire un livre riche en contenu, de manière simple et accessible à tous. Rocker le fait, donc je pense que si jamais vous deviez, après à vous de voir aussi, mais pour présenter le mouvement libertaire à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas, je pense que c'est un très très bon livre.
Tu nous as pas dit, pardon, de quand date-t-elle le bouquin de Rocker ?
Donc oui, je voulais en parler un petit peu de Rocker et de la publication. Donc il était publié juste avant la guerre, en 38 à peu près, je crois, 37-38, en Angleterre. Il a été écrit à la demande d'Emma Goldman. C'est pas rien.
Toute l'aristocratie de l'anarchie est là, quoi. En fait.
Voilà, donc Emma Goldman, grande militante anarchiste, qui avait été donc expulsée des États-Unis, qui s'est retrouvée en URSS au tout début de la Révolution, qui au début s'est investie dans la Révolution et qui ensuite a vite déchanté, en particulier après Kronstadt. Et donc en 38, elle est en Angleterre. Et un éditeur qui s'appelle Frédéric Warburg, va demander à Emma Goldman si elle ne connaît pas quelqu'un qui pourrait écrire justement un livre sur le mouvement anarcho-syndicaliste. Et Emma Goldman fait appel à Rudolf Rocker. Alors, deux, trois mots quand même sur Frédéric Warburg, parce que c'est pas rien comme éditeur. C'est, si vous voulez, c'est le seul représentant de ce qu'on pourrait appeler l'ultra-gauche en Angleterre, enfin dans l'édition à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, dans un climat où il est très difficile, finalement, de ne pas être stalinien quand on est à gauche, se permet d'être à la fois progressiste et anti-stalinien. Donc c'est lui qui va publier l'ouvrage sur la guerre d'Espagne d'Orwell.
La Catalogne.
Hommage à la Catalogne. Et c'est aussi lui qui publie en Angleterre un livre de Boris Souvarine sur Staline. Livre extrêmement bien documenté, qui fait plus de 800 pages, je crois, qui mérite d'être lu si on veut s'attacher à ça, et qui fait vraiment, qui à l'époque est...
On en parlera à une prochaine émission, Tony.
On pourra en parler dans une prochaine émission, il le mérite.
C'est un bon client.
Et donc, Rudolf Rocker, reçoit cette lettre de Goldman. Nous avons ce moment désespérément besoin d'un ouvrage en langue anglaise sur le syndicalisme. Sa publication ferait énormément de bien. Et donc, Rocker, à ce moment-là, est en train d'écrire Nationalisme et culture.
Il faudra quand même que tu relis ce que tu nous dis là à l'ouvrage de Disépoulo. On lui enverra.
Non, je ne vais pas faire de... Quoique, avec Warburg et l'édition, on pourrait peut-être. Mais, et donc, alors, Rocker, lui, qu'est-ce qui lui vaut cet honneur, finalement, de par Emma Goldman? C'est que c'est un militant de très longue date qui est né en Allemagne en 1873. Et qui, comment dire, qui va commencer finalement... je pense qu'il est au début, il est initié finalement au socialisme et à l'anarchisme par sa famille. Peut-être, je crois, si je me souviens bien, par son oncle. Donc il est né à Mayence, voilà, toc. Et oui, au début, il est apprenti relieur. C'est-à-dire qu'il commence donc dans le monde du livre... Quand même.
Chez les Anards aussi
Alors, pas tellement chez les Anards, parce que...
Ah, oh, l'édition, le monde du livre.
Oui, mais pas forcément en Allemagne.
Oui.
Et donc, il a un oncle qui va justement l'initier à toute la littérature, la philosophie, les sciences naturelles, l'histoire, et ainsi de suite. Et donc, très très vite, cette influence familiale va faire que... Rocker, jeune homme, ça va s'inscrire tout de suite dans l'association professionnelle des relieurs, et après il va rejoindre brièvement le Parti Social-Démocrate d'Allemagne. Et à ce moment-là, il n'est pas encore anarchiste. C'est plus tard qu'il va le devenir. Et même si, parce que bon, quand il rentre au Parti Social-Démocrate, le parti est encore clandestin. Bon, quand même. Et après, il va très très vite rejoindre au sein du Parti Social-Démocrate une espèce d'opposition informelle. Et à partir de là, en fait, il va faire il va pas rester très très longtemps dans ce parti, parce qu'il est très très vite, il fait très très vite partie des gens qui sont exclus. Et à partir de là, il va exclu de ce mouvement, bah, il rejoint le mouvement anarchiste allemand, qui est encore assez embryonnaire et très peu développé par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays européens. Mais les aventures de Rocker ne s'arrêtent pas là, puisqu'il est appelé pour faire le service militaire allemand, et il déserte. Et donc à partir de là, il part en France, et dans une période assez mouvementée, puisque c'est la période de la propagande par le fait. Et je pense que c'est important dans sa formation, parce que Rocker sera quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la propagande par le fait, et qui va surtout monter tout un tas d'associations au cours de sa vie, qui visent finalement l'éducation populaire. C'est quelqu'un qui croit à la culture et qui croit qu'il faut impérativement, y compris d'un point de vue politique, éduquer les gens et surtout pas les laisser dans l'ignorance, dans une ignorance crasse. Donc, ça, il va surtout le mettre en œuvre à partir du moment où il est obligé de s'exiler à Londres. Donc, il est obligé d'exiler à Londres. Pourquoi ? Parce que oui, il espère pouvoir obtenir un certificat médical de complaisance qui lui permettrait d'éviter le service militaire allemand.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Et donc, il arrive en 1895 à Londres. Et là, il va justement, c'est là qu'il va se lancer à, qui va être extrêmement, comment dire, qui va se lancer dans le syndicalisme et dans l'éducation populaire, en essayant de monter dans la communauté juive. Quasiment, on pourrait dire, des écoles pour ouvriers.
Oui.
Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est quelqu'un qui est très cohérent et qui est toujours dans l'action, en fait. Toujours dans la pratique.
Ouais.
C'est-à-dire que pour lui, et ça se voit dans son livre, ce souci pédagogique d'ailleurs, c'est évident.
Méfiez-vous des beaux parleurs.
Voilà. Voilà. Alors. Il y a des petites pièces de rhétorique quand même dans son livre, mais c'est le contenu qui est surtout mis en avant par un style très très clair, et il est évident qu'il s'adresse à tout le monde. Et de ce point de vue-là, par rapport, je crois que certains critiques de la société actuelle pourraient y trouver pourrait s'y mettre à l'école de Rocker, pour écrire plus clairement.
D'accord.
Et pas seulement pour des universitaires de gauche.
Bon, et entre donc ce début de siècle et 1938,
qu'est-ce qui se passe?
Les deux, trois choses qui lui arrivent.
Le problème, c'est qu'il est en Angleterre jusqu'en 1914, et là, en tant que citoyen allemand.
C'est un ennemi.
C'est un ennemi.
Ben oui.
Donc il est arrêté, évidemment. Et il va rester en prison pendant toute la guerre. 4 ans de prison. Et ensuite, bah, il décide d'aller en Hollande où il peut retrouver donc, son épouse et son fils. Et de là, il retourne en Allemagne. Alors, il est en 19, quand les spartakistes se font écraser. Et il va commencer à s'investir au sein de l'Union libre des travailleurs allemands. Donc, qui promeut des idéaux anarcho-syndicalistes. Et là, il va rester finalement jusqu'à l'arrivée des nazis. Alors, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il s'en va, mais il quitte l'Allemagne début mars 33.
Ouais, c'est à un moment où il a déjà 60 ans.
Oui.
Et donc, finalement, une fois qu'il part en exil, qu'est-ce qui lui reste à faire? Il est un peu dans l'idée d'être dans la transmission. Parce que.
Et dans la survie, peut-être aussi.
Ouais,
quand
ouais,
même.
Ouais,
ça ouais. Compte.
Enfin, d'accord,
je le comprends.
J'achète.
Enfin, on peut pas lui en vouloir de sauver sa peau. Mais il va pas pour autant, abandonner l'action politique et l'action aussi pédagogique. Donc.
C'est la transmission dont je parlais.
Ouais, c'est la transmission dont tu parlais, évidemment. Ouais. C'est pas parce qu'il essaie de sauver sa peau qu'il va tout lâcher aussi. Hein. Et donc, il s'intéresse à ce moment-là. Alors, il part pour les États-Unis et il va beaucoup s'intéresser, évidemment, à la guerre d'Espagne. Donc, il écrit ce livre, le livre dont je vous parle, Théorie pratique de l'anarcho-syndicalisme, est écrit pendant la guerre d'Espagne. Et évidemment, ça l'intéresse beaucoup. Donc, il y consacre quelques pages. Parce que, évidemment, à ce moment-là, en Espagne, c'est là qu'on trouve finalement le plus puissant mouvement anarcho-syndicaliste d'Europe, puisque la CNT, c'est quelque chose comme 1 million de syndiqués.
Oui, l'expérience effective dans la vie sociale, c'est la prise en main de la société.
Voilà, oui. Et au moment du coup d'État franquiste, finalement, c'est les anarchistes qui sauvent, peut-être malgré eux, la République, et qui en profitent pour immédiatement enclencher un processus révolutionnaire.
Voilà.
Sur des bases qui sont celles que partage Rocker, c'est-à-dire sur des bases anarcho-syndicalistes, c'est-à-dire qu'il s'inspire essentiellement de James Guillaume et de gens comme ça, et d'une organisation syndicale qui reprend plus ou moins en main la production, la distribution des biens.
Et alors lui, il écrit son livre en pleine guerre d'Espagne, par rapport à une expérience de vie d'un demi-siècle où il est partisan des pratiques anarcho-syndicalistes, il est défenseur des théories. Est-ce qu'il trouve dans son ouvrage, à un moment donné, un moment de recul, ou de critique, ou de limite, où il a l'impression que finalement, c'est des expériences qui sont vouées à l'échec ou pas, ou au contraire, comme il est en plein dans la guerre d'Espagne, il est dans l'espérance que cette guerre d'Espagne va être par la victoire, parce qu'il doit espérer la victoire, va être une société nouvelle.
Voilà. Là, c'est très, il est très partagé là-dessus. Il n'est pas exagérément optimiste, on va dire ça comme ça. Parce que, de toute façon, moi, il pense que la guerre d'Espagne, que la révolution plutôt espagnole au moment de la guerre montre que l'anarcho-syndicalisme peut fonctionner. Ensuite, c'est pas pour autant que cette possibilité suffit pas nécessairement pour que ça fonctionne là maintenant en Espagne. Et il y a une petite postface qui a été écrite plus tard qui est assez triste parce que elle est écrite en 47-48.
Effectivement.
Et là, tous les mouvements anarchistes ont été démolis à peu près partout dans le monde. Et donc, Rocker le constate. Et même, maintient un bel optimiste quand même pour quelqu'un qui devait être assez âgé. Et espère que.
75.
Ça peut quand même repartir. Et donc, il fait le recensement de tous les mouvements qui ont lieu à cette époque.
Donc là, tu as des expériences anarchistes en Europe,
oui.
En Amérique latine,
oui.
En Amérique du Nord.
Dans le monde entier.
Dans le monde entier. En Asie,
En Asie, Japon.
En Asie, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ah oui, au Japon.
Il y avait un groupe anarchiste japonais. Chinois, je ne sais plus, mais.
Chez les marins, peut-être, non? Le contre-amiral, dis-moi un peu.
Bah, ça, il n'en parle pas des marins. Ouais, mais il y a un mouvement anarchiste japonais et il est mentionné. Donc c'est un beau tour d'horizon, si vous voulez, du mouvement anarchiste.
Tu as appris beaucoup de choses.
Première moitié du 20e siècle. J'ai appris pas mal de choses. Oui.
Sur les pratiques.
Sur les pratiques, surtout.
Et les...
Même si, du point de vue de la théorie, il y a tout un tas d'idées qui sont, à mon avis, assez intéressantes et qui méritent d'être réfléchies.
Rappelle le titre avant qu'on rende l'antenne.
Donc, c'est Rudolf Rocker, Théorie pratique de l'anarcho-syndicalisme aux éditions Aden. Voilà, 19 euros. Bel ouvrage d'introduction.
Okay,
donc, nous vous laissons là. Nous retrouvons dans 2 semaines. Donc, c'était Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez nous écrire à jeudinoir2012@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas. Et donc, à dans 2 semaines.
Au revoir.